Parlant de machine, le prof Sylvain Dancause, bon lundi, comment ça va?
Ça va bien, merci beaucoup. Vous autres, les garçons?
Ça va bien, ça va bien. Content de te voir.
Ben oui, moi aussi, je suis content de vous voir.
Merci de commencer la semaine avec nous.
Ben oui, ça commence bien la semaine, une petite visite dans les bureaux de Boulevard 102.1, yes. Puis ensuite, je me dirige tranquillement pas vite vers l'école.
Jaser éducation, je veux qu'on commence avec les travaux de la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et développement de nos jeunes. Ça a commencé jeudi dernier. On va jaser avec plusieurs intervenants, là, que ce soit dans l'éducation, la santé, services sociaux, sécurité publique, droit, bref, numérique. Tout le monde. J'aimerais te lancer avec cette première question-là sur le sujet, Sylvain. J'aimerais... Moi, ça me préoccupe, en tant que parent, le temps d'écran chez mes deux ados. Toi, en tant que parent, comme papa, mes profs aussi... As-tu continuellement ce débat-là et ce défi-là dans ta tête de temps d'écran? Il me semble que moi, juste comme parent, là, j'en ai mon quota là, de gérer ça. Toi, comme prof puis parent, ça ressemble à quoi?
Ben, comme prof et comme parent, ça ressemble pas mal, là, dans le sens où à l'école, tu vois, là, au centre de service scolaire pour lequel je travaille, les jeunes ont un Chromebook entre les mains dès la cinquième année, donc de la cinquième année à la cinquième secondaire. Il y a plusieurs écoles maintenant où il y a aussi des Chromebooks, il y a des iPads. Fait que, tu sais, l'écran est omniprésent dans plusieurs écoles. Puis là, je parle pas des cellulaires qui sont des appareils personnels où est-ce que les jeunes... maintenant, ouais. Je dirais que 95% des jeunes, peut-être même plus, ont un cellulaire au secondaire. Puis on en voit de plus en plus au primaire pour parler avec des enseignants du primaire qui me disent que maintenant, là, depuis 5-6 ans, on c'est plus régulier de voir des jeunes de 5e puis de 6e année avec un cellulaire entre les mains. Donc, tu vois que le phénomène prend de l'ampleur. Là, ça n'a pas tendance à diminuer. Fait qu'on s'intéresse à ça, je pense que c'est important. Puis moi, comme parent, je ne suis pas différent des autres parents. Là, j'ai 3 ados à la maison. Puis c'est d'essayer de les éduquer puis de suivre ce qu'ils font. Puis tu sais, tout dépendamment aussi du genre d'enfant qu'on a, tu sais, puis des fois aussi, ça varie beaucoup avec le sexe de l'enfant, là. Donc, tu sais, je vais faire une généralisation, là, mais quand on parle, tu sais, de garçons et de filles, évidemment, des fois, c'est pas les mêmes intérêts par rapport à l'écran, c'est pas les mêmes choses qui nous attirent, tu sais, puis... Il y a une tendance, tu as tendance à voir que les garçons sont plus intéressés vers les jeux généralement, du gaming. Ouais. Ils vont utiliser les plateformes beaucoup pour ça. Bon, il y a toujours aussi les échanges avec les autres, avec les amis. Ouais. C'est la façon d'échanger maintenant. Là, on ne prend pas le téléphone pour appeler, là, on utilise l'appareil électronique pour converser avec les autres. Puis tu regardes souvent les jeunes filles vont être davantage sur les réseaux sociaux. Plus sur l'image un peu. Fait que, tu sais, il y a des espèces de traits généraux qu'on peut tirer, mais bon, évidemment, il y a des exceptions à tout ça.
Ouais, oui.
Mais moi,
ça ressemble à ça chez
nous. C'est un combat. Oui, c'est ça. C'est un combat continuel, là, tu sais. Puis l'affaire, c'est ce qui est facile de dire à un moment donné, c'est de lâcher prise puis de dire... T'sais, de la merde, là, je m'en occupe plus, puis tu sais, mais ça, c'est peut-être pas la meilleure solution
non, de
faire ça, parce que ça peut juste être de pire en pire, tu sais. Puis, bon, il arrive un âge où tu es capable peut-être davantage de le gérer, là, puis on le voit chez les adultes, c'est pas facile à gérer, là, tu sais, il y a beaucoup d'adultes qui ont de la difficulté à gérer, mais à partir de 16 ans, tu vois une certaine maturité, les jeunes commencent à comprendre davantage les enjeux. Fait que, tu sais, quand tu arrives en secondaire 4, secondaire 5, tu sais, 15, 16, 17 ans, je pense que là, il y a moyen de travailler davantage en prévention, en éducation, en sensibilisation. Pour les plus jeunes, c'est difficile, là, tu sais, honnêtement, là, d'avoir un discours rationnel puis d'essayer de leur expliquer le point de vue hygiène numérique puis pour ta santé puis pour ci puis pour ça. Te regardent, mais tu sais, un peu avec un haussement d'épaule.
Ils comprennent pas.
Ouais, puis ils sont jeunes, tu sais, puis c'est correct, là, oui. Je veux dire, il y a des choses qui viendront plus tard. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que chaque chose en son temps. C'est pour ça que j'ai hâte de voir, là, le rapport est supposé sortir, on dit mai 2025, donc dans un an. Bon, dans moins d'un an, là, mais j'ai hâte de voir les conclusions de tout ça. Pour moi, c'est un problème de santé publique, là. T'sais, je pense pas que le système éducatif a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je pense que le système éducatif a à s'adapter, mais par rapport aux recommandations qui vont arriver par rapport à un problème de santé publique.
Ouais.
Puis quand je parle de santé publique, je parle de santé physique, donc de sédentarité, puis je parle aussi de santé mentale, donc augmentation de l'anxiété, augmentation des symptômes dépressifs. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on commence à faire des corrélations puis à se dire, ouais, peut-être qu'il faudrait agir davantage là, par rapport à ça.
Est-ce qu'on est coupable au niveau des centres de services, justement, puis là, tu en parlais bien, ils ont un Chromebook dans les mains à partir de la cinquième année. On est-tu en partie, là, j'ai dit coupable, mais je vais plus dire, est-ce qu'on est en partie responsable de cette augmentation-là du temps d'écran en ayant mis nos enfants devant un Chromebook dès la cinquième année, puis en ayant fait de l'école à la maison aussi avec la COVID, là?
Bien, c'est sûr que l'école à la maison, ça n'a peut-être pas aidé, là. Ouais. T'sais, est-ce qu'on est en partie coupable? Je pense qu'on est tous coupables d'un point de vue social et individuel, là. Mm-hmm. C'est un problème social, mais c'est aussi un problème individuel. Puis je pense que ça va vite, hein. T'sais, toute l'évolution de la technologie est extrêmement rapide, puis on a de la difficulté à suivre le rythme, puis on est toujours en réaction plutôt que d'être en action. Parce que la commission qu'on a mise sur pied présentement va nous amener des pistes de solutions, peut-être, on verra. Mais t'sais, c'est certain que quand je parle avec des jeunes puis qu'ils ne sont pas gênés de me dire qu'ils ont un écran dans leur chambre à coucher, que les notifications sonnent à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin, que le jeune est brûlé quand il arrive sur les bancs d'école à 9h, tu sais, qu'il n'a pas beaucoup dormi. Mm-hmm. Là, c'est un problème individuel. Là, est-ce que l'enfant devrait avoir un appareil dans sa chambre? Est-ce que le parent surveille ce que le jeune fait? Mm-hmm. Moi, j'en ai vu des élèves se lever pendant la nuit, puis ils me le disent. Là, je veux dire, je le sais, puis ils me disent, « Monsieur, je suis fatigué parce que je me suis levé. Mes parents, ils ne veulent pas que j'aie un écran dans ma chambre, mais je me suis levé, j'étais allé chercher mon appareil pendant la nuit, je l'ai ramené. Ouais. » Puis j'ai gamé dans ma chambre, tu sais, pendant 2-3 heures.
Ben, le Chromebook sert à ça, à gamer, des fois. Là, il y a des profs qui me disent, hey, les jeunes arrivent, le Chromebook, il est mort, il n'a pas été rechargé parce qu'il a servi toute la nuit à gamer.
Ben, c'est ça, tu sais. Ben, là, tu sais, il y a toujours aussi, par rapport à ça, tu sais, tu as l'écran récréatif, puis tu as l'écran pédagogique, tu sais. Puis on a entendu beaucoup parler récemment, puis ça, je pense que c'est un défaut de l'école. Je pense que ça, il y a un coup de barre à donner, puis on a entendu parler, tu sais, l'écran récréatif à l'école, tu sais, ou l'écran récompense. Donc, il y en a qui disent, ouais, mais tu sais, mettons mon enfant, par exemple, au service de garde, ben pour les récompenser, on va leur offrir du temps de jeu. Mais là, on pourrait se poser la question, est-ce que dans un milieu éducatif, est-ce que dans une école, d'offrir du temps de jeu comme récompense, c'est une bonne récompense? Est-ce qu'on pourrait pas y avoir d'autres récompenses comme... va botter un ballon, va courir dehors, tu sais, tire-toi en bas de la butte de neige, puis même si ça te fait un peu mal, c'est pas si grave que ça, tu vois. Il y a peut-être d'autres choses qu'on devrait offrir en récompense, puis même affaire au secondaire, là, que je parle du service de garde, mais primaire, secondaire, est-ce que l'écran devrait être une récompense? Je pense que dans un milieu éducatif, la réponse, c'est non. Je pense que la récompense, c'est plus aux parents à le gérer qu'aux éducateurs dans une école. Après ça, ben, quand on arrive avec l'écran en classe, moi, j'essaie de pas trop l'utiliser personnellement. C'est sûr que je suis en mathématiques puis en sciences. Des fois, en maths, c'est plus facile, tu sais, d'y aller en enseignement efficace ou explicite, là. Puis de faire travailler les jeunes, de faire du modelage, de les faire travailler, bon, fait que tout dépendamment. Mais il reste que le problème de l'écran, généralement, c'est que le jeune est en multitâche. T'sais, le jeune a... Puis ça, vous allez le voir à la maison si vous êtes parent. Moi, je vous suggérerais toujours... d'aller jeter... Ben, c'est sûr que quand le jeune est rendu à 4-5, comme je disais, à un moment donné, il faut lâcher prise. Là, il faut qu'il se responsabilise, mais il reste qu'il y a un crescendo là-dedans. Puis, tu sais, il faut aller voir ce que notre jeune fait sur notre écran parce que peut-être que l'enseignant ou l'enseignante a donné un devoir à faire sur la plateforme numérique. Peut-être qu'il y a une feuille d'étude qui n'est pas papier, mais la feuille d'étude est sur le Classroom. Là. Il y a Google Classroom que les profs utilisent beaucoup. Donc, il est sur le Classroom. Puis là, j'ai une feuille résumée avec... Puis là, l'enfant doit ouvrir son appareil pour aller chercher ces informations-là. Puis là, c'est là que souvent, puis on le voit aussi en classe, que là, le multitâche embarque. Autrement dit, j'ai 2, 3, puis 4 fenêtres ouvertes en même temps. Puis, tu sais... si ça vous intéresse, je m'adresse plus aux parents. Là, tapez sur Google Steve Masson. Steve Masson, c'est un chercheur, professeur-chercheur de l'UQAM. Okay. Il fait des capsules sur YouTube, des capsules qui durent 4, 5, 6 minutes sur différents sujets comme le cellulaire, l'ordinateur, la plateforme numérique. Bon, puis il y en a une sur le multitâche d'ailleurs que je vous invite à écouter. Mais la recherche est claire là, quand tu écoutes un gars comme Steve Masson. La plupart des études vont démontrer qu'il y a une perte de performance puis qu'il y a un impact net sur la compréhension du contenu quand tu fais du multitâche. Puis encore pire que ça, ce qu'on a remarqué, exemple au cégep ou à l'université, dans un auditorium, dans une salle de classe où les gens ont le laptop ou le Chromebook d'ouvert, puis qui sont en train de faire du multitâche, donc qui sont sur d'autres plateformes pendant qu'ils écoutent le cours, qu'ils prennent des notes, bien, les gens qui sont autour, qui voient la personne faire du multitâche, l'impact est aussi grand que celui qui fait du multitâche. Fait que tu vois qu'il y a un potentiel de distraction assez grand avec ces appareils-là. Fait que c'est ça qu'il faut être capable de gérer puis d'expliquer aux jeunes. T'sais, de faire du multitâche, ben oui, tu es capable de faire deux puis trois affaires en même temps, mais tu ne seras pas optimal dans les deux ou trois affaires que tu es en train de faire en même temps. T'sais. Fait que c'est une légende de dire que oui, je vais être top dans tout ce que je suis en train de faire présentement. Là, ça n'existe pas.
Ben, l'exemple, il y en a un autre facile, puis je sors de l'école, mais maintenant, tu sais, quand tu regardes un film sur Netflix, là, moi, je vais passer la moitié du sel sur mon film.
La moitié du temps sur ton sel pendant le film.
Exactement. Puis,
c'est un bon exemple de multitâche non réalisé.
Puis là, ben, je pense que je l'écoute le film, mais à un moment donné, je me rends compte que je n'ai manqué des bouts en tabarouette. Fait que dans un cours, ça doit être la même maudite affaire.
Exactement. C'est exactement ça. Ben oui. Tu peux pas être performant à plein de places en même temps. T'sais, puis c'est démontré, comme je te dis. Puis,
les femmes, oui, mais pas les hommes.
Ouais, mais ça, c'est une autre légende, ça aussi. Tu vois? Ben, peut-être qu'elles sont meilleures que nous, peut-être. Mais peut-être. Il reste qu'il y a un impact quand même à faire du multitâche.
J'en doute.
Puis il y a beaucoup de choses que les jeunes, puis je dirais même les moins jeunes, ne savent pas. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'éducation à faire. Puis l'hygiène numérique, c'est une partie de cours. C'est un cours qui n'existe pas, mais c'est une partie de choses qu'on devrait enseigner aux jeunes, donc de comment bien utiliser ces appareils-là. Oui, il y a des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients aussi. Il y a beaucoup de risques. Puis c'est quoi les risques, là, t'sais? Puis quand on parle de manque de sommeil, c'est un des risques. Puis, tu sais, je lisais, ça fait quelques années de ça, c'est une professeure-chercheure de McGill, du Douglas Institute, là, qui est affiliée à l'Université McGill, tu sais, puis qui disait, dans un article de la presse, qui disait tout simplement, tu sais, puis je me disais, bon, c'est un peu candide, mais quand même, tu sais, elle disait, ben moi, je fais des travaux sur le sommeil, puis une des façons les plus efficaces qui serait d'améliorer le rendement de nos jeunes, ça serait d'améliorer la qualité de leur sommeil. Donc, qu'ils comprennent que de bien dormir 8, 9, 10 heures par nuit, ben ça t'aide dans ta réussite, ça t'aide dans tes aptitudes sociales, ça t'aide à... Elle disait, ben il y a peu de coûts de faire de la prévention, d'informer les jeunes, puis de leur montrer que ben votre sommeil a quand même un impact important là, sur votre qualité de vie et de performance à l'école.
Sylvain, est-ce que c'est possible d'arriver à un moment d'écran zéro à l'école où on est embarqué dedans, il faut vivre avec puis il faut s'adapter?
Je pense que l'écran zéro à l'école, je pense pas que ça va arriver. Tu sais, tu vois, là, les jeunes caquistes, puis c'est un peu ça qui avait déclenché là, tout l'histoire
toute
de
la commission.
Tu sais, on a parlé des jeunes caquistes tout récemment. Mais d'ailleurs, la semaine passée, quand j'étais ici, on a jasé de la discipline à l'école, puis ça venait des jeunes caquistes avec Legault qui a dit, M. Legault qui a dit, ben OK, je vais demander à Bernard Drainville là, de nous faire un plan pour la discipline, puis le civisme, puis le respect à l'école. Mais si on revient en mai dernier, c'est un peu ça qui s'est passé encore une fois que les jeunes caquistes qui avaient brassé un peu à la cage en disant, ben, on devrait interdire le cellulaire à l'école, pas juste dans les classes. Les réseaux sociaux, ça ne devrait pas être permis avant l'âge de 16 ans. Fait que, les jeunes caquistes avaient amené des idées assez strictes sur la place publique. Puis M. Legault avait réagi encore une fois à son aile jeunesse en disant, ben oui, je vous entends, je vous écoute, puis on va faire une commission transpartisane, donc on va impliquer tous les partis là-dedans, puis on va essayer de trouver des solutions. Fait que ça vient un peu de là, l'idée de créer cette commission-là, qu'on verra ce que ça va donner. Mais ben voilà.
En tant que parent, est-ce qu'on est rendu trop loin avec le cellulaire? Parce que je voyais la Fédération des parents qui est sortie pour dire « Hey non, ça prend le cellulaire à l'école parce qu'il faut absolument que je puisse rejoindre mon jeune en cas d'urgence. » Mais dans le temps, on appelait la secrétaire.
Ouais, ben, tu sais, je pense que ça, c'est un faux problème là, de dire je suis pas capable de rejoindre mon enfant en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Mmh. Tu sais, ça prendrait quasiment une micro-puce là, dans le derrière pour être capable de le retrouver partout. Là.
Ouais, mais encore là, il y en a qui font la géolocalisation de leur enfant.
C'est pour ça que je disais ça. Mais, tu sais, je suis peut-être mal placé pour parler parce que vous savez, les gars, que j'ai pas de cellulaire.
Ouais, exactement.
Fait que, tu vois, moi, j'étais un contre-exemple là, de la nécessité du cellulaire dans la vie. Moi, je pense, puis j'ai déjà écrit un billet là-dessus là, dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, ça fait quelques années quand même déjà. Puis, tu sais, je posais la question, en fait, mais est-ce qu'on devrait interdire le cellulaire avant 16 ans? T'sais, moi, bien avant les réseaux sociaux, tant qu'à moi, qui c'est très difficile de gérer l'âge d'accès à un réseau, aux réseaux sociaux. Moi, si c'était juste de moi, ça serait plutôt, je m'attaquerais plutôt au cellulaire qui pour moi est le bien plus gros problème que les écrans en tant que tel. Mais je pense pas qu'on va reculer dans le sens où par rapport aux écrans, ben on les utilise, puis apprendre à coder, est-ce qu'on devrait l'apprendre à l'école? Il y en a qui posent encore cette question-là. L'intelligence artificielle s'en vient, on va faire quoi avec ça? Fait que tu sais, il y a beaucoup... comme je disais tantôt, ça va vite. Fait que là, on est beaucoup en réaction. C'est ça le problème actuellement. Puis la recherche suit, mais tu sais, la recherche pour savoir ben, c'est quoi les effets négatifs ou les effets positifs ou bon, on doit agir sur quoi, ben, ces effets-là, on les mesure actuellement. Mais tu sais, de la recherche scientifique sérieuse, ça prend quand même quelques ouais. années avant d'arriver avec des résultats probants. Ça prend plusieurs recherches, même si j'ai juste une recherche qui me dit, bon, mais je dis, mettons, ah, ça cause plus d'anxiété chez les jeunes, le fait d'avoir une dépendance à un écran, blablabla. Mais là, après ça, il y en a deux, trois, quatre. Fait que là, à un moment donné, c'est la somme des preuves qui s'accumulent qui va faire qu'on va agir. Mais tu sais, on récolte encore ces preuves-là présentement. Puis là, ben, ça commence tranquillement, pas vite. Il y a des flags qui commencent à lever puis dire, ben là, peut-être que le bord ouvert, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. On a vécu la même affaire avec d'autres choses. Je te ramène à la cigarette.
Ouais.
Je veux dire, il y a bien des gens qui disaient « Ben non, il n'y a pas de danger avec la cigarette, il n'y a pas de problème avec la cigarette. » Puis même fumer, ça va peut-être vous faire du bien. Là, ouais. Fait que le discours, à un moment donné, a changé, évolué. Les preuves se sont accumulées. Puis à un moment donné, on a dit « Ben là, je pense qu'il y a des effets vraiment dommageables. » Puis je pense qu'il faudrait légiférer davantage par rapport à ça. T'sais. Fait qu'on est un peu là-dedans. Fait que, bon, ça va être... on verra où est-ce que ça va nous mener. Mais on est encore pour plusieurs années à en parler puis à agir là-dessus. Là.
Sylvain Dancausse, on voulait ce matin aussi jaser de la transition du primaire au secondaire. Puis c'est un sujet que je veux qu'on aborde. Mais là, je vois que le temps file. Soit qu'on te réinvite d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine, parce que moi, je le vis chez nous. Ma fille a passé dans les dernières semaines du primaire au secondaire, puis je veux qu'on en jase. Je sais qu'il y a beaucoup de parents dans ouais. cette position-là aussi en ce moment. Fait que parler de comment ça se passe à l'école pour cette transition-là, comment ça se passe surtout aussi à la maison, le rôle des parents. Donc, on garde ça pour soit fin de cette semaine ou début de la semaine prochaine.
C'est correct pour toi, ça? Ben oui, ça va me faire plaisir. Transition primaire-secondaire, c'est un sujet très intéressant puis hyper important. Puis nos pratiques ont beaucoup changé, en tout cas à l'école. En tout cas, ça tend à s'améliorer, c'est pas encore parfait.
Ah,
puis aussi,
ça.
Comme parent, ben, je pense que c'est important là, de continuer à suivre et à épauler notre jeune, même quand il arrive au secondaire. Il est grand, mais il n'est pas si grand que ça.
Ça se peut qu'exceptionnellement, on t'invite deux fois cette semaine. Je tiens à le dire, là, ça se peut. C'est ça, des se plans, peut. Là, ça se peut.
Il n'y a pas de problème, les okay. gars. Sinon, ben, on se verra la semaine prochaine.
Parfait. Cool. Sylvain Dancausse, merci pour ça. Toujours bien apprécié, Jaser Éducation avec toi. Max, avant la pause, il faut revenir sur les routes.
Oui, c'est Nancy qui nous a texté, là, accident auto Canadien, pompiers et autres sur la 20, là, donc à faire attention si vous êtes dans ce coin-là, et ça risque évidemment d'avoir un impact. Déjà que c'était pas facile, puis pas le choix aussi de revenir sur... là, il y a d'autres affaires. Là. Robert Bourassa Sud, OK, ça c'est terminé. C'est la... Dufresne-Montmorency-Est, fermeture de la sortie boulevard des Chutes en raison d'un incident. Je n'ai pas les détails par rapport à ça, mais quand même à mentionner. Dufresne-Montmorency-Est, fermeture de la sortie boulevard des Chutes. Et 40 Est, là, pour ce qui est de l'accident à la hauteur de la 138, c'est encore très difficile. Ça bloque à la hauteur de la route de Fossambault.
Merci, Max. Si vous voyez quoi que ce soit sur les routes, 88-971-1021, si vous pouvez texter en toute sécurité. Courte pause dans la troisième heure de Rage Against le matin. Entre autres, on va jaser de la situation actuelle immobilière à Québec avec le courtier immobilier Étienne Lessard. Bougez pas. Jusqu'à 10h.